Bonjour à toutes et à tous les auditeurs de la radio de l'Entre-deux-Mers, que j'ai rebaptisé la radio du bassin de l'Entre-deux-Mers, pour faire plaisir à Damien. Vous êtes bien en direct sur l'émission Beau et Papille, tout un programme, les papilles. Alors, j'aimerais donner un petit peu le ton sur le mode d'emploi de cette émission. Cette émission se veut être une émission conviviale, basée sur les papilles, vous l'avez compris, mais également les sens. Alors, on connaît les quatre familles de saveurs, salé, sucré, acide, amer, mais il y en a une cinquième de saveur dont on va parler aujourd'hui et dont on parlera aujourd'hui. Le but de cette émission, c'est de recevoir, bien sûr, des restaurateurs. Et ces restaurateurs viendront dans notre émission, dans votre émission qui deviendra la vôtre, eh bien pour parler de leur carte, de leur menu, de leur sélection de produits. Mais avant tout, et c'est ça qui est important, pour élaborer une carte, un menu, il faut avoir des produits. Et ces restaurateurs inviteront des producteurs avec lesquels ils travaillent, avec qui ils ont confiance, que ce soit pour le solide, pour le liquide, que ce soit pour une entrée, que ce soit pour un hors-d'œuvre, une viande, un poisson, un légume, un plateau de fromage, un dessert, bref, tout a besoin d'être soigneusement sélectionné. Donc si les restaurateurs peuvent aujourd'hui vous proposer des menus faits maison, parce que c'est le but de l'émission, c'est de vous redonner envie d'aller au restaurant, mais également vous redonner envie de cuisiner chez vous à la maison. Quand on pense que certaines personnes achètent des bouteilles de vinaigrette toutes faites, mais attendez, c'est à mourir de rire, excusez-moi, je me gausse, je glousse, je rigole. Une bonne vinaigrette, elle se fait en quelques poignées de secondes. Il n'y a pas besoin d'avoir de compétences culinaires pour réaliser une vinaigrette. Une vinaigrette, c'est un peu de vinaigre de son choix, en fonction bien entendu de ce que l'on veut assaisonner, que ce soit du vinaigre de cidre, du vinaigre de vin, peu importe, nature ou aromatisé. Et ensuite, pas de moutarde. Dans une vinaigrette, il n'y a jamais eu de moutarde. De l'huile, et plus particulièrement de l'huile d'olive, bien entendu, dont nous pourrons parler, puisque mon premier invité se prénomme Marc, et nous allons bien entendu parler avec lui de l'huile. Donc le but, c'est de vous donner envie, à travers cette émission, de fermer les yeux pendant 60 minutes, et d'essayer de comprendre ce qu'il se passe, d'essayer de comprendre ce que l'on peut utiliser. Notre corps est magnifique et merveilleux. Il nous permet de nous dire « attention, on se brûle, attention, c'est froid, attention, c'est trop salé, attention, c'est trop sucré ». Eh bien, vous donnez le mode d'emploi de votre corps, ce corps qui est unique. Je parlais des quatre saveurs tout à l'heure, salé, sucré, acide, amer, il y en a une cinquième. La cinquième saveur que les Japonais ont découverte, mais que nous avions découvert sans le savoir non plus. On va en parler également tout à l'heure. Ce que l'on voudrait, c'est que vous passiez un moment d'exception, de partage. La cuisine, la pâtisserie, c'est se serrer les coudes, c'est se donner la main, se donner un coup de main, se prendre par la main et réaliser. Et en cuisine, que fait-on? Comme en pâtisserie, que fait-on? Eh bien, on prépare de l'amour pour les autres. Quand on prépare quelque chose, c'est tout simplement les préliminaires à, je dirais, une partie de plaisir exceptionnel pour lesquels on va partager. Qui n'a pas, dans ses souvenirs d'enfance, la mémoire de ce repas familial à l'occasion de la disparition d'un ancien, à l'occasion d'un mariage, à l'occasion d'un baptême, à l'occasion de l'anniversaire d'une mamie qui n'avait plus le courage de faire à manger, mais pour qui on faisait à manger, elle avait tellement donné, elle avait tellement apporté, elle avait tellement cuisiné, que ce jour-là, bien, on lui disait « Mamie, tu ne cuisines pas, c'est nous les petits, c'est nous la nouvelle génération qui allons cuisiner pour toi, mais cuisiner avec amour ». Tu nous en as tellement donné, tu nous en as tellement apporté de cet amour. Donc la cuisine, la pâtisserie, ces repas, c'est tout simplement une fabrique à souvenirs. On fabrique des souvenirs que l'on verra, dont on se rappellera tout le temps. Et d'ailleurs, il ne se passe pas un repas en famille le dimanche ou un jour férié ou une veille de pont comme en ce moment, puisque nous sommes en direct de la foire de la Réole et nous saluons tous les Réolaises et tous les Réolais et tous les Riolais. Le riz, bien entendu, ne pousse pas dans cette région, mais ben, pourquoi pas? Il y a certains terrains maintenant, avec la pluie qui se rapproche, on pourrait, pourquoi pas, produire du riz dans la région. Je disais, il n'y a pas un repas où un souvenir est évoqué et où on ne prend pas de fou rire, où on ne prend pas... Excusez-moi, je suis avec Esther qui me demande le stylo et le papier, c'est du direct. Voilà ma petite Esther. Voilà, donc, vous l'avez compris, vous l'avez compris, c'est quelque chose de très important. Et on va commencer avec un producteur de champagne. Je vous ai parlé d'huile d'olive, mais on a un producteur de vin de champagne, qui est Monsieur Verja Michel. Vous êtes producteur vous-même, Michel ?
Tout à fait.
Alors, expliquez-nous un petit peu, vous êtes situé dans quelle partie de la Champagne ? Alors, et vous élaborez quel type de champagne ?
Alors, on est situé dans la vallée de la Marne, entre Épernay et Dormans.
Entre Épernay et Dormans, alors bien entendu, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que la Champagne est un département très important. Plusieurs départements sont concernés, puisque pour vous donner un ordre d'idée, le sud de l'appellation n'est qu'à 45 km de l'appellation Chablis, en Bourgogne. Donc ça, on a tendance à l'oublier. Le Chablis et la Champagne, c'est deux copains. Donc vous, vous êtes dans la partie haute de la Champagne.
Oui, tout à fait, dans la vallée de la Marne.
Vallée de la Marne. Vous êtes propriétaire ?
Propriétaire récoltant.
Donc propriétaire récoltant, c'est une appellation que l'on voit sur les bouteilles également. Oui. Sur les bouteilles, c'est-à-dire sur l'étiquette. Vous avez récoltant manipulant, récoltant négociant. Expliquez-nous un petit peu tout ça, la différence.
Alors le récoltant manipulant, j'ai mes vignes, j'ai mon pressoir, j'ai mes cuves et j'élabore mon vin.
D'accord.
Et je le vends.
Vous avez combien d'hectares de vignobles dans cette appellation ?
Alors moi personnellement j'ai 4 hectares de vignes et mon fils qui reprendra derrière moi en a 1 hectare.
Donc ça fera 4 plus 1, 5 hectares. 5 hectares sur quoi ? Pinot blanc, pinot meunier,
Pinot meunier principalement, chardonnay et pinot noir.
Et pinot noir.
On a les trois cépages, c'est les trois cépages qui sont acceptés en champagne.
D'accord. Donc vous ne faites que du champagne, je dirais, traditionnel, classique. Vous faites du blanc de blanc ?
Du tout.
Non.
Non.
Le blanc de blanc, c'est un champagne exclusivement élaboré avec des raisins
blancs.
Sachez que le pinot meunier et le pinot noir sont des raisins de couleur et qui apportent, bien entendu, on peut faire du vin blanc avec des raisins rouges. On ne peut pas faire de vin rouge avec des raisins blancs.
Exactement.
Ça, c'est important de le souligner. Expliquez-nous un petit peu cette exploitation familiale, comment elle fonctionne et comment ça se passe. Je connais très bien la Champagne. C'est une région que j'affectionne particulièrement. Je suis régulièrement sur la région parce que je travaille avec le directeur du comité interprofessionnel du tourisme, le CDT, M. Philippe Aran. Et nous organisons tous les ans en Champagne les jeunes talents du Champagne qui ont lieu en ce moment.
Oui.
Alors expliquez-nous un petit peu votre mode de fonctionnement, parce que le tissu économique n'est pas du tout le même qu'en Bordeaux. Ici nous sommes au cœur du Bordelais, au sud de l'appellation des Graves et du Sauterne. La Champagne, elle fonctionne comment ?
Elle fonctionne de père en fils. Tout simplement.
J'aime bien l'expression de père en fils.
Je tiens mes vignes de mon père, qui le tenait de son père, et ainsi de suite, depuis 4 générations, c'est comme ça.
D'accord. Vous produisez combien de...
Alors je produis très peu de bouteilles, je produis en moyenne à peu près 12 000 bouteilles par an.
2500 par hectare ?
Pardon ?
2500 bouteilles par hectare, en gros ?
À peu près, oui. Hein. Mais ce qu'on fait, c'est qu'on garde un hectare qu'on champagnise et les 4 autres hectares, on les vend aux négociants.
D'accord. Vous vendez aux négociants.
Oui.
D'accord. Donc ça part sous d'autres marques, sous d'autres...
Tout à fait. Ça part sous la marque du négociant qui l'achète.
Qui vous l'achète. Et votre champagne, quel est son nom ? C'est Verja ?
Champagne Michel Verja et fils.
Michel Verja.
Michel Verja, mon père et fils que vous avez devant vous.
D'accord. Entre le moment où vous récoltez le raisin, par exemple en 2018, l'appellation champagne, c'est combien de mois en cuve ou en barrique ou en bouteille ?
Alors, la récolte de cette année, 2018, on n'a pas le droit de la mettre en bouteille avant le 1er janvier 2019.
Oui.
C'est les règles.
En bouteille pour le dégorgement, enfin pour le vieillissement.
Pour le vieillissement.
Pas pour la vente. Attention.
Non.
Le
non. Sont passés. On peut tourner le vin, faire descendre ce dépôt dans le goulot.
Et il faut combien de temps entre le moment où on commence, puisqu'il faut tourner un quart de tour les bouteilles chaque jour?
Tout à fait. Alors avant on travaillait à la main tout ça en pupitre. Des pupitres, c'est des planches en bois trouées et on mettait les bouteilles dedans et on les tournait tous les jours d'un quart de tour. Et là, il nous fallait à peu près un mois pour descendre ce dépôt. Maintenant, on a des machines assez bien faites ça nous permet de descendre en 8 jours.
D'accord, donc on gagne du temps, et on gagne du temps, puis on gagne également, qu'il veut dire du temps, veut dire du personnel également aussi,
tout à fait.
C'est important.
Du personnel et de la place.
Complètement.
Eh oui, parce que ça tourne des palettes qui font un mètre carré à peu près,
oui.
Et ça tourne 500 bouteilles en rien de temps. Quoi.
Bien sûr, et je crois savoir que c'était un ouvrier qui travaillait dans ce type d'activité il y a 30 ans, 40 ans, 50 ans. C'était plusieurs dizaines de milliers de bouteilles par jour à tourner, en fait.
Ah oui, tout à fait. Il tournait, un spécialiste tournait entre 30 et 35 000 bouteilles par jour.
Tous les jours, pendant 8 heures de travail.
Tous les jours.
Et les deux mains.
Les deux mains prises, oui.
Entre 30 et 40 000 fois le même geste.
Tout à fait.
Pour que le dépôt, rendez-vous compte, le nombre de bouteilles sur 30 jours, 40 000 multiplié par 30, c'est de la folie.
C'est de la folie.
C'est de la folie. 12 millions de bouteilles passées entre les mains d'une seule et unique personne. Alors ensuite, au bout de ces 15 mois et quelques jours, il y a ce que l'on appelle le dégorgement.
Oui.
Alors c'est quoi ?
Alors le dégorgement, il faut juste extraire le dépôt qui est descendu sur la capsule. Il faut juste extraire le dépôt et garder le vin dans la bouteille.
D'accord.
Alors on trempe, on dégorge à la glace. On trempe...
Solidifié ?
Oui, on trempe le goulot dans un bac de saumure. Il se forme un glaçon. Une fois que le glaçon est formé, on peut mettre la bouteille sur son cul. Ça part sur une chaîne et on dégorge, ce qu'on appelle le dégorgement. On retire la capsule et avec la pression de la bouteille, il faut savoir que dans une bouteille de champagne, il y a entre 5 et 6 bars de pression.
5 ou 6 atmosphères. Hein.
Tout à fait. Et ce dépôt s'en va. On garde le vin. On met de la liqueur d'expédition.
La liqueur d'expédition, expliquez-nous ce que c'est que cette liqueur d'expédition.
La liqueur d'expédition, c'est
regarde.
Un litre de champagne, un kilo de sucre de canne. Et là, selon les maisons, on met plus ou moins de liqueur dans cette bouteille.
On appelle ça le vin de liqueur également, ou liqueur d'expédition.
Voilà.
Il y en a qui n'en mettent pas du tout.
Il y en a qui n'en mettent pas du tout, effectivement. Oui,
oui. C'est récent, ça. Hein.
Oui, ça fait 3-4 ans que, oui, effectivement.
Il y a quelques producteurs qui ont décidé de...
On essaye.
Voilà, il y a des essais qui sont faits dans ce sens où il y a 0% de liqueur d'expédition.
C'est vrai.
Mais c'est vrai qu'avant, on avait trois appellations en champagne. Enfin, trois appellations. Il y avait du brut, du demi-sec et du doux.
Et du sec.
Et du sexe, c'est un peu fini tout ça.
Oui, c'est surtout le brut.
Le brut,
surtout
oui.
Le brut marche bien. Oui.
Oui, le brut marche bien, le demi-sec.
Le demi-sec, ça fait 21 ans que je laisse en l'aréole, moi, tous les ans. Et la première année, on m'avait dit, amène du demi-sec parce qu'à l'aréole, on aime bien le sucré. Et alors j'ai amené du demi-sec et je suis revenu avec mon demi-sec à la maison.
Oui, je le comprends, oui.
Et par contre, maintenant, le brut, tout le monde a bien compris que le brut, c'était formidable, quoi.
Donc vous êtes présent à l'aréole jusqu'à demain soir, donc
tout à
c'est
fait.
Une foire incontournable. Ça fait 18 ans que vous venez, si j'ai bien
21
compris.
21 ans.
21 ans que vous venez.
C'est la 21e fois.
Vous êtes une figure emblématique de cette foire de l'aréole.
Presque.
Et si ça n'est pas indiscret, donc si vous avez envie de venir choisir un champagne de producteur, un champagne de qualité, un champagne avec une bulle fine, qu'aujourd'hui on est sur des champagnes, je dirais, que l'on qualifierait, on s'est un peu éloigné de la bouteille de Perrier, que dans les années 60, je me rappelle, avec le champagne, on servait un Moser dans le verre. C'était une petite roue crantée en bois, et on tournait entre ses deux doigts pour enlever l'oxydation et enlever les bulles. Alors maintenant, je vais vous délivrer un secret, ce que vous ne savez peut-être pas, c'est qu'en champagne, donne-moi ton verre là, en champagne, on m'a expliqué qu'il fallait rayer le verre à l'intérieur, un petit peu, faire une encoche à l'intérieur du verre pour créer ce que l'on appelle une cheminée.
Tout à fait.
Expliquez-nous.
On raye juste le fond du verre au laser pour créer justement ces bulles.
Pour que le champagne, ces bulles s'en aillent un peu.
Oui,
parce qu'aujourd'hui, je le disais tout à l'heure, on s'est éloigné du Perrier, c'était pas de l'eau dont je parlais, mais c'était de la quantité de gaz carbonique qu'il y avait à l'intérieur. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on est sur du champagne que je qualifierais de féminin. Et pour l'avoir goûté, le vôtre est un champagne que je qualifierais de féminin. Il y a une prise de mousse en bouche qui est tout à fait exceptionnelle. Il y a un équilibre merveilleux entre le fruit, bien entendu, et le terroir. Et je dois dire que si vous avez envie de vous faire plaisir avec un champagne de producteur, alors je vais tirer à boulet rouge, hein, parce que je vais pousser un coup de gueule. N'achetez pas une bouteille, achetez une bouteille gratuite, ça n'existe pas. Dans la grande distribution, le champagne a un prix, et le prix de revient a un prix aussi. Vous vendez votre champagne, quel prix, monsieur ?
Moi, je le vends, rendu à l'aréole, à 14,50 euros.
14,50 euros, TTC.
Tout à fait.
Donc imaginez, on vous livre chez vous du champagne de producteur à 14,50 euros, quand on sait qu'il y a 20 points de TVA, c'est-à-dire qu'il y a exactement presque 3 euros de TVA, qui ne sont pas dans la poche de celui qui vous le vend, mais qui sont dans la poche du ministère des Finances à Paris. Donc le champagne, vous le payez 11 euros hors taxe. Pour avoir un champagne de qualité, un champagne que vous allez pouvoir utiliser pour ces fêtes de Noël qui arrivent à grands pas, et pourquoi pas pour utiliser toute l'année, puisque le champagne est un vin qui vieillit. Est-ce que vous faites des champagnes millésimés sur certaines années ?
Non, je n'en fais pas. Non, je n'en fais pas. C'est juste un choix de ma part.
D'accord, non, mais je respecte ce choix. Il y a effectivement en champagne la possibilité également de mélanger les millésimes, d'assembler les millésimes.
Exactement.
Donc ce que vous vendez actuellement, c'est un assemblage de quel millésime ?
Il a 3 ans.
Il a 3 ans.
Oui.
Voilà, d'accord. Donc on est sur un champagne de 3 ans. Michel Verjat est positionné à quel endroit dans la foire de l'Aréole ?
Juste à côté de la foire de l'Aréole. La foire, excusez-moi, le bureau de la foire.
Juste à côté, aujourd'hui, tout doit être consommé avec modération. Mais je crois que nos hommes politiques ne savent pas et nous devrions leur demander. C'est une catastrophe. Enfin, monsieur Verjat Michel est présent jusqu'à demain soir. Vous l'avez entendu, 14,50 euros. La bouteille TTC à l'unité en carton de 6. Vous allez pouvoir régaler eh bien, vos tables festives. 14,50, c'est de l'argent, je conçois, mais très sincèrement, fuyez. J'ai essayé pour rigoler des champagnes à moins de 10 euros. On ne peut pas, c'est pas possible. On ne peut pas avoir de la qualité à un prix inférieur à 10 euros pour le champagne. Je le dis haut et fort. Vous achetez du champagne. Si c'est du desktop que vous voulez, vous allez au rayon détergent des grandes surfaces. Si vous voulez du champagne pour fabriquer des souvenirs, vous venez à la foire de Langon. Michel Verjat, avec son vin d'assemblage, 3 ans de vieillissement, dégorgé. Combien de pourcentage de liqueur d'expédition ?
9 grammes.
9 grammes. 9 grammes. Donc sachez que pour obtenir 1 degré d'alcool, il faut 18 grammes de sucre au litre de jus de fruits. Hein, donc voilà. Monsieur Michel Verjat, je vous remercie d'être venu à notre rencontre ici à la radio de l'Entre-deux-Mers dans l'émission Beau et Papille. Nous en savons un peu plus sur votre travail, sur ce que vous faites, le tissu économique de la Champagne qui n'a rien à voir avec la région de Bordeaux. Merci monsieur Verjat.
C'est moi qui vous remercie.
Nous embrassons très fort toute la famille Verjat, votre papa, les ancêtres, ceux qui vous ont l'incontournable Edith Piaf qui nous a quittés dans le début des années 60.
Il portait des culottes, des bottes de moto, un blouson de cuir noir avec un aigle sur le dos. Sa moto qui partait comme un boulet de canon semait la terreur dans toute la région. Jamais il ne se coiffait, jamais il ne se lavait, les ongles pleins de cambouis, mais sur le biceps il avait un tatouage avec un cœur bleu sur la peau blême. Et juste à l'intérieur on lisait « Maman je t'aime ». Il avait une petite amie du nom de Marie-Lou, on la prenait en pitié, une enfant de son âge, car tout le monde savait bien qu'il aimait en retour sa chienne de moto bien davantage. Il portait des culottes, des bottes de moto, un blouson de cuir noir avec un aigle sur le dos. Sa moto qui partait comme un boulet de canon semait la terreur dans toute la région. Marie-Lou où la pauvre fille l'implora, le supplia, dit ne pars pas ce soir, je vais pleurer si tu t'en vas. Mais les mots furent perdus, ses larmes pareillement, dans le bruit de la machine et du tuyau d'échappement. Il bondit comme un diable avec des flammes dans les yeux. Au passage à niveau, ce fut comme un éclair de feu contre une locomotive qui filait vers le midi. Et quand on débarrassa les débris, on trouvait sa culotte, ses bottes de moto, son blouson de cuir noir avec un aigle sur le dos. Mais plus rien de la moto et plus rien de ce démon qui semait la terreur dans toute la région.
Nous sommes bien en direct sur la radio de l'Entre-deux-Mers 98.4 et je viens de découvrir, alors je vous parlais du champagne de Michel Verja qui est à la Réole. J'ai devant moi ce verre, enfin cette flûte.
Alors ça donne quoi ?
Un vin franc, sincère, pointe d'acidité, douceur en bouche, je le disais tout à l'heure, très féminin. La mousse en bouche, c'est de l'écume, c'est pas de la mousse, c'est de l'écume. On se croirait au bord de la mer avec les vagues qui repartent et l'écume. Merci Michel Verja, vraiment un pur bonheur ce champagne. Et nous trinquons à la santé de tous les auditeurs de la radio de l'Entre-deux-Mers 98.4. Je suis avec la duchesse, une duchesse qui nous vient du Pays Basque espagnol. J'ai nommé Esther, qui est la secrétaire de la radio de l'Entre-deux-Mers, une fille adorable que je connais depuis plus de 30 ans.
Tu n'étais pas obligé de le dire.
Qui est blonde à croquer, qui est absolument adorable. Et en ce jour un petit peu particulier aujourd'hui, puisqu'on est dans une période entre Toussaint, j'aimerais envoyer un message à une étoile particulière, c'est sa grand-mère, qui est partie il n'y a pas très très longtemps. Et cette grand-mère avait un peu plus d'un siècle, rendez-vous compte. Donc elle est partie rejoindre les étoiles. Et j'aimerais saluer toutes les étoiles qui brillent dans le ciel, et en particulier la grand-mère d'Esther. Grand-mère d'Esther, un gros bisou à toi, madame.
C'est très gentil. Grande dame.
C'était ta grand-mère, ouais, une grande dame.
Une grande dame qui a su m'élever à la force d'une grande volonté. Parce qu'elle est restée toute seule, très jeune, qui a élevé 4 enfants. Et voilà. Et donc, je passais tous mes étés en Espagne avec elle. Avec mon grand-père, qui est parti, lui, il y a très très longtemps. Mais ma grand-mère a fêté au mois de mars, enfin en octobre 2017, ses 100 ans. Et on l'a perdue, malheureusement, au mois de mars. Mais elle est partie, comme je dirais, comme elle a vécu, bien. Donc,
c'est super.
Je l'embrasse très fort.
Et là-haut, elle brille. Et je peux vous assurer qu'elle continue d'élever les petits rognons qui arrivent et ces étoiles que nous saluons. Tu dois nous parler d'abord du tirage au sort d'une crêpière qui est à gagner avec Téléshopping et TF1.
Oui, oui. Alors j'ai fait gagner Monsieur Latour Francis, voilà.
Donc on va téléphoner à Monsieur Latour Francis qui a déposé un bulletin dans l'urne qui se trouve à la radio de l'Entre-deux-Mers pendant ces 4 jours. Une crêpière facile, mais je crois que tu dois nous parler d'un petit peu de cinéma.
Oui, moi je voudrais faire un petit clin d'œil à l'association du cinéma Rex de la Réole, en fait. Parce qu'il ne faut pas oublier que c'est un cinéma associatif qui a besoin de vivre. Et ils sont géniaux. Il y a une chose, le 11 novembre, ils vont faire un petit spectacle avec un film pour les enfants, plus le goûter. L'entrée est à 5,30€ à 16h.
Deux fois moins cher qu'un paquet de clopes.
Exactement. Et actuellement, ils sont sous le chapiteau, derrière nous. Et ils ont un jeu concours. Il y a une citrouille à peser pour 1€. Et si on trouve le poids, on gagne un abonnement, une carte d'abonnement avec 9 places. Donc, n'hésitez pas à aller leur faire un petit coucou de notre part. 1€, c'est rien. Et vous pouvez gagner un abonnement 9 places. Et vous pourrez faire vivre une association qui a le mérite d'exister à la Réole. On a un cinéma. Voilà.
Eh bien, c'est très bien. Merci Esther. Donc, on va aller peser la citrouille. Et si vous voulez venir faire un bisou à la courge, elle est en face de moi. C'est Esther.
La tronche de la tour. Sympa.
Les pépins sont au milieu.
Ou pas.
Ou pas. Et oui, c'est aussi ça la radio de l'Entre-deux-Mers. C'est aussi ça 98.4. C'est aussi ça, c'est bon, c'est beau l'émission de la radio de l'Entre-deux-Mers. Mais c'est une nouvelle émission qui s'appelle Beau et Papille. Il nous vient de l'Hérault. De l'Hérault. Il ne s'appelle pas Petit Patapon, parce que c'est bien connu. Hérault, Hérault, Petit Patapon. Il était une bergère. Hérault, Hérault, Petit Patapon. On a de la bonne humeur. Il se prénomme Marc. Et il a les yeux bleus. Il a les cheveux blancs, argent, comme moi d'ailleurs. Et il va nous parler d'un produit du bassin méditerranéen, puisque ce produit n'a pas de frontières, mais celui-ci, bien entendu, est bien français. Et il va nous parler d'huile d'olive. Marc, vous êtes ici à la foire de l'Aréole. Vous avez un stand. Vous commercialisez des produits à base d'huile d'olive, mais vous commercialisez également de l'huile d'olive.
Je commercialise des huiles d'olive.
Des huiles d'olive.
Parce qu'on ne peut pas parler d'un produit unique. L'huile d'olive, c'est une diversité. Une diversité de variétés, une diversité de saveurs. Et dans tout le bassin méditerranéen, il faut savoir qu'il y a à peu près 2000 variétés qui sont cultivées pour l'huile.
2000 variétés d'olives.
D'olives qui sont cultivées pour l'huile. En France, nous en avons 80 environ.
80 variétés d'olives.
80 variétés d'olives. Et on va avoir 80 saveurs différentes de l'huile d'olive.
Alors je répète pour vous donner un ordre d'idée. Il y a 4500 variétés de raisins dans le monde. Il y a en France métropolitaine, hein, juste en France métropolitaine, 20 000 variétés de pommes, 6 000 variétés de poires, 6 000 variétés de champignons. Et on ne parle toujours que des mêmes. Donc c'est bien dommage. Donc 80 variétés d'olives différentes. Donc on peut parler de cépages.
Tout à fait.
Comme on parle de raisins.
Exactement. C'est-à-dire qu'on va élever un arbre. Donc la spécificité de l'olivier, c'est que l'olivier se greffe très bien. C'est-à-dire que on peut avoir des arbres qui sont multigreffés. Donc on peut avoir des hybridations qui se font très facilement. Donc dans le passé, les anciens savaient travailler énormément avec ça. Aujourd'hui, ça s'est un peu perdu. On est parti sur des oliveraies mono-variétés. Mais il faut savoir que sur certaines oliveraies, on peut trouver des arbres qui sont greffés avec quatre charpentières, quatre variétés différentes.
D'accord.
Donc... pour dire qu'on peut avoir des hybridations assez nombreuses, ce qui est arrivé d'ailleurs par le passé de manière assez fréquente. Aujourd'hui, nous nous sommes concentrés donc, dans l'Hérault. Notre exploitation, on est sur 9 variétés différentes, plus les pollinisateurs, ce qui fait au total une quinzaine de variétés exploitées.
Sur l'huile. Combien d'hectares ?
Sur 8 hectares et demi. Mais en olivier, on ne compte pas forcément un hectare.
Oui, bien sûr.
Parce qu'on a des ports d'arbres qui sont complètement différents. C'est-à-dire qu'on va passer d'arbres qui sont plantés en 4x5, des aglandos par exemple, on va être par contre sur de l'olivière, on va être en 10x12, puisqu'on a des arbres qui ont une frondaison qui est beaucoup plus large, beaucoup plus développée. Donc on compte un nombre de pieds. Nous aujourd'hui on est un petit producteur, on a à peu près 2500 pieds.
D'accord, 2500 pieds. Ce qui laisse espérer, alors je sais que c'est compliqué bien entendu, la récolte chaque année est différente, il y a eu des années très difficiles, le gel ne nous a pas fait de cadeau, cette année c'est moyen, non encore ?
C'est très très moyen.
Ouais, je sais.
En fait cette année c'est surtout la neige qui nous a... On a eu de la neige dans l'Hérault, ça arrive. C'est la première fois que ça arrive de mémoire d'homme, mais on a eu 35 cm de neige pendant 2 jours, et au moment des bourgeons. Donc on a la neige qui nous a brûlé une partie des bourgeons, donc on va avoir une récolte qui va être à 50% d'une récolte moyenne.
D'accord.
Sachant que la récolte, je devance la question que vous allez me poser, bon, on va avoir, normalement, on a à peu près une récolte qui est à 3 tonnes hectare.
Donc, 3 tonnes à l'hectare. Et voilà. Avec 3 tonnes d'olives, on fait alors, il faut combien de kilos d'olives pour obtenir 1 litre d'huile ?
Alors, tout dépend de la variété. Vous avez des variétés qui sont plus ou moins productives. Vous pouvez partir de 5 kilos au litre pour de la glando qui est assez productive.
Donc 5 kilos au litre, vous l'avez bien entendu. 5 kilos d'olives au litre. Et je vous laisse penser au prix de vente ensuite, parce que vous avez de l'huile d'olive, on en parlera, et vous allez comprendre pourquoi je dis ça.
Et sur de l'olivière, vous êtes à 11-12 kilos au litre.
11 à 12 kilos au litre, c'est-à-dire que pour 100 kilos d'huile d'olive, d'olive, vous avez 10 litres d'huile.
Exactement.
10% seulement, et 90% de déchets, mais enfin...
C'est pas du déchet, puisqu'on le réutilise en tant qu'engrais, c'est le grignon de l'olive. Ce qu'on appelle le grignon, c'est-à-dire c'est la pâte sèche en fait qui reste après extraction.
Comment s'appelle, quel est le nom ?
Le grignon.
Le grignon.
Voilà. Donc effectivement, lorsqu'on ramasse, sachant qu'un arbre, une olivière, par exemple, on reprend le même arbre, donc un arbre adulte, c'est 60-70 kilos d'olive par arbre. Donc imaginez ce que ça donne en matière de récolte.
Oui,
c'est-à-dire que pour faire 1000 litres d'huile, on arrive à un nombre d'arbres assez significatif.
Et là, la récolte va bientôt commencer ?
Normalement, mon beau-fils qui s'occupe de l'exploitation agricole attaque ça ce week-end.
D'accord, il attaque ça ce week-end. Ça dure combien de temps ?
Jusqu'à Noël.
Jusqu'à Noël. Avec des filets sous les arbres ?
Oui, tout à fait. Nous, on ramasse. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que l'oliveraie languedocienne, jusqu'à très récemment, n'était pas une oliveraie commerciale, mais une culture vivrière. C'est-à-dire que chaque propriétaire avait une petite parcelle de 200-300 arbres pour sa consommation personnelle. Mais il n'y avait pas de parcelles plantées de manière homogène et qui peuvent être mécanisées facilement. Donc aujourd'hui, on travaille avec des filets au sol et avec des peignes vibrants qui nous servent à faire tomber les olives dans les filets. Et ensuite, les filets sont relevés tous les X arbres, tous les 2-3 arbres, donc effeuillés, puisque lorsqu'on tombe les olives, malheureusement, on tombe aussi des feuilles. Donc,
bien sûr,
les feuilles, on ne souhaite surtout pas qu'elles passent dans le moulin.
Dans l'extracteur.
Puisqu'en fait, ça donnerait une amertume supplémentaire, qui est un défaut pour nous dans l'huile d'olive. Donc, il faut éliminer chaque feuille, pratiquement. Donc, on effeuille, on met un palox.
Comme pour le raisin.
Et donc, on monte au moulin, comme on dit, le soir même, pour une pressée qui a lieu la nuit ou le lendemain matin au plus tard.
D'accord. Expliquez-nous la différence entre une olive verte et une olive noire, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne le savent pas.
Alors, tout simplement, toutes les olives sont vertes un jour, au départ, et deviennent, si on attend suffisamment longtemps, elles deviennent noires, puisque l'olive noire est une olive mature.
Voilà. Donc, c'est ce que je voulais vous faire dire. Il n'y a pas des oliviers noirs et des oliviers rouges. C'est pas comme les groseilles.
Non, mais il existait des olives rouges.
Oui.
La picholine, notamment, qui est une variété assez connue. Lorsqu'on la ramasse, on ramasse la picho, en général, c'est deuxième quinzaine de décembre, on a une olive qui est quasiment carmen. On a pratiquement l'impression de ramasser des cerises.
D'accord. Alors, j'aimerais quand même attirer votre attention en ayant écouté Marc, qui nous vient de l'Hérault, donc du bassin méditerranéen, pas bien loin de l'étang de Thaux, de Bouzigues, de ces huîtres, de ces violets. Ah, les violets, j'adore ça. Cette espèce de coquillage un peu mou, là. Pour vous faire comprendre et enregistrer que de l'huile d'olive à 5 euros le litre, de qualité, ça n'existe pas. D'accord ? Et je vais vous donner une expérience personnelle. J'ai un ami qui a un moulin à Coudoux, en Provence. Il est en appellation d'origine protégée, à côté d'Aix-en-Provence, à côté de... dans la Croix, pas bien loin de Saint-Rémy, pas bien loin de Salon. Et il a un pressoir, lui, vertical et non pas horizontal. Et il presse à 220 kilos. Et un jour, j'étais à la presse au mois de décembre, et je regardais, donc ils utilisent des espèces de paillassons ronds avec un trou au milieu. On met ça dans un cylindre et puis la presse presse.
Les scourtins.
Comment ?
Ça s'appelle des scourtins.
D'accord, des courtins.
Des scourtins.
Des scourtins, ben voilà, j'ai appris quelque chose. Voilà. Merci Marc. Donc, remplis les scourtins et la pâte qu'il avait utilisée, enfin qui avait servi à presser l'huile, il les mettait dans des gros seaux en plastique bleu et il mettait ça en chambre froide. Et moi, je voyais, qu'est-ce qu'il fait avec ça ? Pourquoi il le met en chambre froide ? Je pensais à la tapenade, je pensais à plein de trucs et je dis, mais qu'est-ce que tu vas faire avec ça ? Il me dit, ça, je le revends pour faire de l'huile d'olive. Ah bon ? Ils refont de l'huile d'olive avec ça ? Oui. Ah bon ? Mais où ? Il me dit, à Oly-Provence, à côté d'Aix, à Célonie. Je dis, qu'est-ce qu'ils font ? Il me dit, ils font une première pression à froid. Je dis, attends, tu viens de la faire devant moi, là. Il dit, oui, mais moi, c'est 230, eux, c'est 500 kilos. Donc, ils refaisaient de la première pression de la pâte de déchets que lui ne voulait plus. Bref, ce qui fait que l'huile d'olive, il y en a à tous les prix. Et surtout, j'aimerais avertir le consommateur. Puget, d'accord ? On va parler de Puget. Puget, c'est un joli nom qui fleure la Provence et qui fait de la publicité à la télévision. Et quand on parle de Puget, on pense à Fernandel, on pense à Boujna, on pense à la Provence, on pense à tout. Regardez bien sur la contre-étiquette et regardez bien en travers de l'étiquette, c'est de l'huile de la communauté économique européenne. Et ça, il faut le savoir quand même. Vous achetez une publicité et vous avez des étiquettes où il y a écrit or EU. C'est-à-dire que c'est de l'huile qui vient hors Europe, zone européenne. Donc sachez lire les étiquettes. Je n'ai rien contre Puget, mais j'aimerais seulement qu'on mette les choses au point. Marc, vous êtes là pour vendre de l'huile d'olive. Vous vendez votre huile combien au litre ?
Mes prix sont à peu près entre 25 et 30 euros le litre.
Voilà. Voilà. Je reviens de Provence, j'étais il n'y a pas très longtemps en Provence. C'est le prix que je paye mon huile d'olive que j'achète. C'est le prix pour avoir une huile d'olive de qualité. Ne prenez pas votre voiture pour aller en Espagne, pour acheter de l'huile en bidon de 5 litres à 20 euros les 5 litres. Ça, c'est pas possible, ça n'est pas possible. Qu'est-ce qu'il y a dans cette huile ? Qu'est-ce qu'il y a dans ces bidons ?
Alors, il y a plusieurs phénomènes qui jouent. On peut avoir de l'huile d'excellente qualité en Espagne, chez des producteurs comme nous.
Oui, bien sûr.
Des petits producteurs. On ne va pas la payer à 5 euros le litre, on va la payer à 10 euros le litre. Tout simplement parce que on va venir sur des problèmes techniques de PAC, tout simplement. C'est-à-dire qu'en Espagne, la culture de l'olive est une culture qui est subventionnée, contrairement à la France. Ce qui veut dire que le prix de vente de l'huile constitue en gros le bénéfice de l'oléiculteur. Donc le prix de vente peut être beaucoup plus bas puisque toutes les charges sont pratiquement couvertes par des subventions. Donc ça, c'est un des premiers phénomènes. Le deuxième phénomène, c'est qu'effectivement, en Espagne, on a une très forte mécanisation parce qu'on a des oliveries qui ont été plantées pour, donc avec des espaces de retournement des tracteurs, etc. Et un taux de mécanisation qui est très fort. Troisième point, l'olive est une industrie de main-d'œuvre. C'est-à-dire qu'on a des besoins en main-d'œuvre qui sont très importants à la taille et à la récolte. Et on a un phénomène de coût du travail qui est largement différent entre la France et l'Espagne.
Exactement.
Après, par contre, je reviens sur ce que vous évoquiez, c'est-à-dire ce qu'on appelle, nous, l'huile du supermarché, ce que l'on trouve couramment dans tous les magasins proches de la frontière. Pour nous, ce n'est pas de l'huile.
Merci.
C'est un liquide gras à base vaguement oléicole, mais ce n'est pas de l'huile.
Exactement. Le prix de l'huile, entre 20 et 30 euros le litre pour avoir une huile de qualité. Le champagne, en dessous de 10 euros, c'est pareil. Ça n'est pas possible. Merci Marc d'être venu à notre rencontre. Si vous voulez stocker de l'huile, elle est vendue en bidon de 2 litres, d'une huile de très grande qualité, une huile de plaisir, une huile de gourmandise, une huile qui relèvera vos cuissons, une huile que vous allez utiliser à la dernière minute sur une viande blanche, sur une volaille, sur une salade, sur une crudité. Bref, mais on peut même l'utiliser sur certains desserts. J'ai un ami qui est en Provence, j'ai un ami qui est à Arles, qui a 2 étoiles au Michelin, c'est Jean-Luc Rabanel, qui cuisine l'huile d'olive, qui travaille l'huile d'olive. Je peux vous assurer que c'est quelque chose de merveilleux. Et d'ailleurs, on est entre copains aujourd'hui, on est à la foire de l'Aréole. Eh bien, on va écouter Sheila, les copains, je ne vous oublierai jamais.
On est
savez, vous en savez un peu plus sur le champagne et vous en savez encore un peu plus sur l'huile d'olive, deux produits que vous connaissez admirablement bien, que vous avez appris à connaître avec eh bien, nos chroniques de l'émission Beau et Papille. Je voudrais saluer tous les auditeurs, bien entendu, qui nous envoient des messages à La Réunion. Je pense
à Sébastien qui nous a fait un petit coucou
Sébastien
en direct.
Sébastien qui est en direct du côté de Lormont, du côté de Senon, du côté de Dravemont, sur les hauteurs de Bordeaux, rive droite. Sébastien, nous te faisons des bisous. Je reçois un troisième invité aujourd'hui pour parler de papy, pour parler de plaisir. Il se prénomme Landry, L-A-N-D-R-Y, à ne pas confondre avec le Clos Landry, qui est un vin très connu de cette île merveilleuse au fin fond de la Méditerranée, la Corse. Il se prénomme Landry, il ne vient pas du Clos, je le répète, et Fabien Paolini n'est pas son père. Il est sur l'aréole avec nous pendant ces 4 jours, donc il vous reste un jour et demi pour venir vous régaler. Il habite Marcheprime, mais il n'habite pas que là, mais on n'en parlera pas d'où il habite. C'est un citoyen du monde. Il parcourt le monde, il parcourt l'Europe, il parcourt la France, il sillonne les terroirs et il sélectionne des vins de très grande qualité. J'aimerais qu'il nous explique un petit peu ce qu'il fait, comment il le fait, parce que moi j'ai dégusté des vins sur son stand, puisque c'est un stand qu'il a. Eh bien, ils sont tous différents, tous complémentaires, mais tous, en tous les cas, choisis avec passion et amour. Et quand on sait que la passion, c'est la force de croire. Bonjour Landry.
Bonjour, comment allez-vous?
Très bien, moi je vais bien. Tu as une bonne bouille, Landry.
Mais je sais, merci. J'ai une bouille d'ici, surtout. J'ai eu une bouille d'ailleurs aussi, puisque j'ai beaucoup voyagé, comme vous l'avez dit, découvert beaucoup de terroirs, beaucoup de pays, beaucoup de continents aussi. Et mon objectif, c'est de trouver des petites pépites qu'on peut trouver ailleurs.
Tu verras
et pourtant, je suis à un moment donné partisan et je promouvois mon terroir en permanence dans le monde, dans l'Europe déjà, dans un premier temps, mais aussi dans le monde. Et pourquoi je promouvois mon terroir? Mais je propose aussi des petites pépites. On ne retrouve pas forcément de... Je ne suis pas chauvin, je ne suis pas quelqu'un qui va essayer à un moment donné de dire Bordeaux, c'est les meilleurs. Non, on n'est pas les meilleurs, mais on n'est surtout pas les moins bons. 80% de mes ventes, c'est de la région du Sud-Ouest.
D'accord. Alors tu me parlais des continents. En vieillissant, fais attention, c'est les incontinents que tu vas croiser.
Ah, peut-être. Ça peut venir. Ça viendra peut-être un petit peu. Je ne sais pas quand, mais j'essaie le plus tard possible.
Mais oui,
Landry. Pour vous, ça ne vous est pas encore arrivé quand même.
Non, pas du tout. Tout va très bien. Je suis sur le continent, pas encore un continent. Donc, je salue les incontinents, bien entendu, parce que c'est quelque chose de...
Qui est très particulier, oui. qui est dur à vivre.
C'est chiant.
Je ne sais pas si c'est chiant. Mais...
Alors, parle-nous de tes trésors, de tes vins, de ce que tu vends, de ce que tu fais avec ta société.
Alors, qui est Place des Gourmets? Place des Gourmets, moi... On peut aller sur notre site internet, placedesgourmets.com ou .fr. Vous retrouvez à l'heure actuelle plus de 1000 produits gastronomiques issus des différentes régions françaises, mais aussi du monde, d'Italie, d'Espagne. Et vous avez aussi nos vins. Nos vins, c'est 500 références. À l'heure actuelle, 200 références. Fin novembre, 500 références. Nous avons monté une équipe qui promouvoie toute cette activité. On a à peu près 100 000 clients sur toute l'Europe, 20 000 clients en France qui commandent régulièrement chez nous, que ce soit une fois, deux fois, trois fois dans l'année, voire plus pour certains, et systématiquement sur des offres, sur des produits que j'ai chinés, que je cherche. Alors bien sûr, j'espère m'entourer prochainement d'autres personnes qui vont me faire ce travail, parce que c'est très difficile, c'est très long. Trouver des petits propriétaires comme on vient d'avoir, Monsieur de l'Olive avant, c'est très compliqué. Il faut aller à la rencontre en permanence. Et c'est un métier très très compliqué. Voilà pour vous dire. On a un entrepôt aujourd'hui basé à Marcheprime qui fait 850 mètres carrés sur 6 mètres de haut. Pour vous dire, tous les produits sont référencés en stock dans l'entrepôt, prêts à être livrés chez les clients. Nous, on attache un soin particulier à nos clients et un soin très particulier, un service après-vente impeccable. Les gens appellent, il y a quelqu'un au bout du fil. Les gens ont un problème, bouteille cassée, on livre, on relivre derrière. On s'attache à ce que on ait des beaux produits, mais que le client soit satisfait de tout ce qui se passe derrière. Aujourd'hui, 90% des consommateurs attendent que leurs produits soient livrés en temps, en heure, et que s'il y a un problème, il y ait quelqu'un derrière pour résoudre ce problème.
Donc ta démarche, Landry, c'est de faire le travail en amont de ce que les gens n'ont plus le temps de faire. Tu te déplaces à leur place.
Exactement.
Tu vas choisir sur le terrain,
exactement,
dénicher, exactement, des petites pépites.
Mais comme vous avez dégusté sur notre stand un Nero d'Avola, très particulier. C'est un vin fait sur mesure, qui à un moment donné est fait à la main. Je dis fait à la main l'étiquette, pourquoi ? Parce que c'est en céramique. Donc chaque étiquette est apposée par une personne derrière. Au-delà du vin qui est très intéressant à l'intérieur et qui est de grande qualité, on va essayer d'apporter des produits encore plus nobles et qu'on va poser sur la table et avoir une histoire. Moi, ce qui m'intéresse, le vin, c'est quelque chose, comme on en a parlé tout à l'heure, la grande distribution, moi,
c'est pas ton
ça
truc.
Va s'arrêter. Ça va s'arrêter. De toute manière, ils perdent des parts de marché par rapport à Internet. Ils perdent des parts de marché par rapport au terroir. Pourquoi ? Moi, ce que je cherche aujourd'hui, c'est de promouvoir et rechercher des produits qu'on ne va pas forcément retrouver dans la grande distribution, premièrement, mais que la grande distribution s'est désintéressée. La grande distribution se désintéresse de ces produits parce qu'il n'y a pas assez de volume quelque part. On n'a pas assez de volume pour...
Et puis leur boulot, c'est de distribuer, point barre. Ça distribution, grande distribution. C'est pas des commerçants.
Exactement.
C'est des distributeurs.
Moi, je suis commerçant avant tout. Je suis exactement commerçant et producteur. Avec notre frère, on est producteur en Saint-Émilion Grand Cru. Saint-Émilion Grand Cru, Bordeaux Rosé, Côte de Castillon. Voilà ce qu'on produit. Donc, on est producteur, effectivement,
tu sais
aussi acheteur, négociant.
Bien sûr.
Voilà. Et revendeur. Et nous avons l'objectif, à un moment donné, dans ce cadre-là de développement, aussi de venir s'implanter sur la Réole. On va s'implanter sur l'Aréole, au centre-ville, pour redynamiser le bourg de l'Aréole. Et c'est pour ça qu'on est sur cette foire.
D'accord.
Avec des produits de qualité, des produits de l'Aréole aussi. Parce que un travail que je vais devoir faire très prochainement, c'est de retrouver des producteurs autour de l'Aréole. Parce que qui dit magasin autour de l'Aréole, dit aussi...
des circuits courts.
Circuits courts. On est dans le circuit court aujourd'hui. L'essence, je pense que on en parle assez à la radio, on va peut-être pas en parler aujourd'hui, mais tout le monde gueule parce que c'est trop cher. Donc nous, on essaye de limiter les coûts en permanence. Et si on, qui dit circuit court dira produit, rapport qualité-prix, très intéressant pour le consommateur, goûtu, parce qu'on va essayer de se servir chez des producteurs de qualité tout autour.
Bien sûr. Tes dernières pépites que tu as trouvées ou tu es tombé en admiration sur quelques liquides ou...
Je suis allé en Espagne, Rioja.
Rioja.
Bien sûr qu'on a des très belles pépites. Moi, je vais vous parler de trois... Rioja.
Rioja.
Vous allez m'engueuler.
Eh oui.
Vous venez d'Espagne.
Absolument.
On ne se connaît pas, mais je vois ça. Je dis des bêtises. Voilà. J'ai trouvé une petite pépite. 26 mois d'élevage fût de chêne, neuf. Production, 12 000 bouteilles par an, très petite production, des très jolis coteaux. On retrouve, c'est pas un vin, c'est pas un grand réserva, c'est pas un réserva. Alors qu'est-ce qu'un grand réserva ? Réserva ou crienza en Espagne. Crienza, c'est 3 à 6 mois d'élevage fût de chêne. Un réserva, c'est 6 mois de fût de chêne minimum. Et un grand réserva, c'est plus de 18 mois de fût de chêne. Voilà, c'est pour la différenciation. Là, on n'a aucune connotation parce qu'on est sur un produit exceptionnel, sur des petite production, voilà, et on n'a pas d'appellation d'AOP sur des produits comme ça. Après, j'ai des Nero d'Avola, des vins d'Italie, j'ai des vins aussi du sud, des vins du sud très chauds, des Mori, un Mori sec.
Mori, M-A-U-R-Y, c'est une appellation communale du côté de Perpignan. Hein.
Exactement, on vient de l'Hérault, on est juste à côté, on est sur Mori, dans le 66, exactement. Mori sec, des vins très expressifs, très goulayant.
Rivesaltes aussi.
J'ai pas de Rivesaltes. Mais en revanche, oui, très belle appellation.
Le Mori, il y a le Mazamiel.
Mazamiel, exceptionnel, qui est une propriété à part entière. Et c'est très bien. Mais j'aime aussi, mais aujourd'hui, je suis aussi sur des Minervois, la Livinière. Ça, c'est très particulier, encore une fois. Les propriétés ont l'obligation de vendre un certain prix, n'ont pas le droit de vendre moins cher. Mais derrière, ils ont aussi, on leur donne les moyens, en vendant un certain prix et ne pas descendre en dessous d'un certain prix, on donne le moyen à nos producteurs de pouvoir bien vivre et de pouvoir faire un bon vin. Parce qu'aujourd'hui, même on le voit dans le Bordelais, on parlait de la grande distribution, on peut parler aussi de la viande. J'écoutais encore une émission de radio ce matin sur RMC, pas les citer, mais on ne paye pas assez nos producteurs. Je suis désolé. Nos producteurs en Bordelais ne sont pas assez rémunérés. Pas du tout. On ne peut pas faire avec peu d'argent un beau produit. Aujourd'hui, on devrait avoir une tendance à payer un petit peu plus cher certains produits.
Rémunérer un peu plus le producteur à la source, à l'origine.
Exactement.
À l'origine. C'est lui qui a besoin d'argent.
Exactement. Comment on peut retrouver en grande distribution, vous en parliez juste avant, comment on peut retrouver des Bordeaux à moins de 2,50 €? C'est pas possible aujourd'hui. Aujourd'hui, comment on peut retrouver? Vous parliez de TVA, TVA à 20% sur un vin. Si on enlève 20% à 2,50 €, qu'est-ce qui vous reste? Vous enlevez le prix de la bouteille. Vous enlevez le prix
bouchon,
de
l'étiquette.
Le bouchon. Qu'est-ce qui
la capsule congé.
Mais vous êtes sûr que le producteur peut faire quelque chose de bon?
Non,
avec
il l'a
ça
volé. On se dit où il a volé le produit.
C'est totalement imposé. Chez moi, par exemple, vous ne retrouverez pas des vins dans ce calibre-là. Ce n'est pas possible. Je ne peux pas.
Ça débute à quel prix, les Bordeaux? En Bordeaux, Bordeaux supérieur?
On sera autour des 5 €.
Voilà. Oui,
TTC. À partir de 5 €, TTC. Voilà, qui
ça
reste abordable. Qui reste abordable, ou à un moment donné, on peut distribuer convenablement, apporter un service convenable,
Protéger le viticulteur.
Et protéger le viticulteur. Voilà. Mais en dessous, venir vendre 2,50 €, voire moins, que vous regardez les promotions, mais c'est une hérésie, c'est pas possible.
Mais non, c'est pas possible.
C'est pas possible. On parlait ce matin, j'écoutais une émission où le prix du bœuf aujourd'hui, il est acheté à des producteurs, à des éleveurs, 3,10 €. Mais 3,10 €, comment sur carcasse on peut acheter 3,10 € le kilo pendant que nous, ça nous est revendu 20 à 25 € le kilo? Mais comment on peut faire vivre un éleveur? Comment on peut faire vivre nos agriculteurs? C'est pas possible.
Bien sûr.
En ayant cette tendance toujours à acheter moins cher, ben on va se retrouver avec des produits, excusez-moi du terme, je ne vais pas le dire, mais je le pense très fort, des produits de M et très mauvais. Voilà, très mauvais.
C'est-à-dire que l'industrialisation.
Un producteur ne peut pas travailler.
Bien sûr. C'est pas possible, il faut le rémunérer pour qu'il puisse vivre et qu'il puisse continuer de nous apporter, bien entendu, des produits de qualité, des produits sains, des produits bons, des produits qui sont exceptionnels. Quand on voit aujourd'hui tout ce qui traîne, tout ce qui court, tout ce qui se vend, la qualité a un prix, je le dis, pour tous les produits. Chaque produit, ne descendez pas en dessous d'un certain prix. Sinon, vous ne savez pas où vous mettez les pieds. Et vous encouragez et vous donnez votre argent à des entreprises, à des sociétés qui malheureusement quelquefois usurpent même les appellations. On l'a vu cet été pour le vin rosé qui venait d'Espagne. Je ne citerai pas le nom de la propriété qui avait joué avec le vin espagnol rosé qu'ils achetaient.
C'est pas au courant.
Si, tu sais, ben, y a eu un sacré scandale sur des millions de bouteilles de vin espagnol. Nous allons écouter une chanson de Delpech. Il nous a quittés il n'y a pas très longtemps. Non ? Ah non, j'ai... Non, alors elle est pas prête. On va continuer pendant 3 minutes. On va continuer encore pendant 3 minutes. Landry, donc tu es un négociant. Tu as des produits
éleveur. Producteur, récoltant.
Éleveur, producteur, récoltant.
Ouais. Triple castel.
Et je distribue les vins.
Et donc vous avez.
Distributeur, négociant.
Mais c'est vrai, mais ça existe. Non, mais à 37 ans, oui, c'est pas évident. Ça fait 15 ans que je fais ça. Et j'ai débuté il y a 15 ans, j'ai débuté dans une cave, mais pas une cave à vin, dans une véritable cave. Donc il faut du temps à tout ça. Donc on est passé producteur, on a été négociant, je suis importateur pour la Suisse, je suis importateur pour l'Allemagne, pour le Luxembourg, pour la Belgique. C'est du temps, c'est beaucoup de temps.
Il faut des gens comme vous.
On essaye de travailler, on va essayer de dynamiser aussi le centre-ville de la Réole avec des idées de développement simples. Pas compliqué à faire, c'est pas très dur à un moment donné, mais il faut du temps.
Il faut du temps.
Et pas l'argent, c'est une chose, bien sûr qu'il faut de l'argent.
Il faut changer
les
mentalités
mais
de
c'est
consommation.
Surtout du temps. Et le temps, à partir du moment où on se le donne, les choses avancent. C'est ça qu'il nous faut.
Il faut redonner envie d'avoir envie.
Exactement.
La boutique va ouvrir quand à la Réole?
J'aimerais idéalement au plus tard au 1er mai.
1er mai, donc
c'est bientôt.
Je me donne du temps aussi pour ouvrir la boutique. Je pourrais l'ouvrir beaucoup plus rapidement, d'ici un mois. Mais l'idée, c'est de là. de faire les choses bien pour tout ce qu'il y a autour et pour les gens qui m'entourent aussi, puisque j'ai des gens, il n'y a pas que moi, je ne serai pas présent en permanence là-bas. J'ai besoin que mon personnel et les employés puissent se sentir bien et qu'on ait un développement durable et pas un développement sur du court terme. C'est tout.
D'accord. On a parlé de liquide, mais je crois que tu commercialises et tu vends du solide aussi.
Ah, bien sûr.
Qu'est-ce que tu vends ?
On fait beaucoup de cadeaux d'entreprise. Beaucoup de cadeaux d'entreprise. Nous travaillons en partenariat, peut-être que vous connaissez très bien, monsieur Beau, la maison Duc de Gascogne, qui est à Gimont, voilà, qui vient d'être pris il n'y a pas longtemps. Nous travaillons avec d'autres producteurs, que ce soit des Landes
ou des
Gironde.
Donc des produits carnés, des produits à base de foie gras, des terrines, des pâtés, des plats cuisinés.
Exactement.
Juste avant mais Noël, aussi, vous allez nous donner faim, là.
Mais aussi des petites soupes. Des soupes aussi qui viennent de Bretagne. J'aime beaucoup les soupes de poisson. Donc, des produits aussi, des terrines. On trouve très peu de terrines.
Le pâté Enaf, les Bretons.
Ah non, merci.
Non, mais on ne trouve pas forcément dans le secteur des petites choses confidentielles. Des terrines de saumon, des terrines à la noix de Saint-Jacques. Des choses faites par des petits producteurs sur la Bretagne. Et c'est ça qui m'intéresse.
Un joli département. Nous saluons les Bretons qui nous écoutent. Donc tu fais des coffrets avec
coffret
des produits
solides. Coffret cadeau, coffret d'entreprise.
Un coffret à partir de combien avec une bouteille et quelques produits
20 euros.
20 euros TTC.
Ça va de 20 euros jusqu'à 150 euros, effectivement.
D'accord.
Mais après, ça dépend ce que tu mets dedans.
Merci Landry.
On choisit.
C'était Beau et Papy. Vous étiez à la foire de la Réole avec nous en direct. Nous vous remercions pour cette première émission. Nous vous rendez-vous très prochainement. Bonne fin de week-end, embrassez tous ceux que vous aimez et sans retenue. Merci Damien qui est à la technique, merci Francis, merci Esther. Trouble.